traités culinaires et savants. Chaque jour, Hervé Tisse, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes aux compagnies d'Olympe Versini. Bonjour Olympe.
Bonjour Hervé.
Alors, Olympe Versini, le chef de Casa Olympe, de ce restaurant qui est dans le rue Saint-Georges, dans le 9e à Paris. Olympe nous a parlé la semaine dernière de tapenade, et aujourd'hui, le gigot de 7 heures, ou comment attendrir les viandes. Hein. Gigot de 7 heures, gigot de 11 heures, tout y passe à peu près. Hein.
De toutes les heures.
De toutes les heures.
Et en plus, on dit que le gigot de 7 heures, souvent, il ne cuit que 4.
Ouais. Bon, alors voilà. Alors, je vous ai... Les chefs en cuisine, c'est souvent des hommes, et des femmes, il y en a peu. Hein. Honneur aux femmes, j'ai choisi une recette de Georges Sand. Alors, c'était pas une cuisinière, hein, c'était quelqu'un qui faisait la cuisine, mais c'était pas une professionnelle. Il y a eu un beau livre publié par Christine Sand, La table de Georges Sand, chez Flammarion. Tiens, en fait, j'ai oublié de signaler, Olympe, vous venez de publier un bouquin.
Oui, en effet, chez Lafond, et qui s'appelle La gourmande impatiente, parce que ce sont des recettes qui sont faites très rapidement. Bon, il y a quelques plats, évidemment, l'ajout de bœuf au vin caramélisé, tout ça, ce sont des plats qui sont un peu plus longs, mais il y a quand même 60% ou 70% de recettes extrêmement rapides.
Alors, je vous lis la recette du gigot de 7 heures, selon Georges Sand. Alors, gigot de 7 heures. Mettez dans une braisière ou casserole longue, oignons coupés en lames, carottes, un navet, bouquet garni avec deux gousses d'ail, fenouil, persil, thym, laurier, trois grands verres de bouillon, quatre verres d'eau de vie, trois verres de madère. Votre gigot bien dressé en boule et bardé et ficelé, laissez cuire à feu doux pendant 7 heures. Faites bien réduire la cuisson pour glacer le gigot avec et servez bien chaud avec une purée de haricots de soissons. Voilà. Compliqué, hein. Il y a des choses bizarres dans ce truc-là, parce que je vois qu'elle met... Elle stipule très précisément qu'il faut un navet, mais elle dit des carottes. Alors, j'en mets combien de carottes, moi?
Oh, des carottes, on peut en mettre... C'est pour aromatiser tout ça, hein. C'est ce qu'on a un petit peu un bouquet aromatique.
Mais alors, pourquoi seulement un navet?
Ben, un navet, parce que le navet, c'est puissant, quand même.
Ah,
c'est plus puissant que la carotte, oui. Donc, je mettrais, par exemple, deux grosses carottes.
D'accord. Bon, fenouil, persil, thym, laurier, ça, on sait pas combien on en met.
C'est pour les arômes.
Ouais, ouais.
Oui, mais à cette époque, on pesait pas tout, parce que on avait un petit peu, il faut avoir un petit peu se laisser aller à son propre instinct, souvent, en cuisine.
Un peu de sorcellerie. Hein.
Voilà. Ben, ça ne nuit pas, comme disait Colette, c'est comme ça. Exactement. Voilà, alors, un petit bouquet avec deux feuilles de laurier, quelques queues de persil, un bon brin de thym.
Les queues.
Oui. En principe, on met les queues de persil parce que ça parfume autant, et on conserve les feuilles pour
la décoration,
les hacher, la décoration,
d'accord,
etc.
4 verres d'eau de vie, 3 verres de madère. Oh, bon, bah, alors ça y est, maintenant ça cuit 7 heures.
On voit qu'elle a voyagé dans les îles, Georges Sand, avec le madère.
Ouais,
on utilisait pas mal le madère à cette époque.
Ouais, c'est un peu
disparu. Mais c'est bon. C'est bon parce que ça apporte...
Gardez-nous ça pour la partie artistique. C'est après qu'on en parle, parce que là, pour l'instant, on cherche simplement à faire. Alors, on sait faire, on a cette recette. Nous sommes prêts pour le deuxième chapitre, les dictons du gigot de 7 heures. Chapitre 2 de notre émission aujourd'hui mercredi avec Olympe Versini, Casa Olympe à Paris, le gigot de 7 heures.
Bien
alors
sûr.
7 heures, 11 heures, 4 heures, qu'est-ce qui est...
Bon,
moi j'ai trouvé de tout, hein, parce que j'ai même trouvé dans des livres de cuisine des gigots de 7 heures qui étaient cuits 11 heures.
Oui,
alors
à mon avis, tout dépend de la viande. Tout dépend de l'âge de la bête,
la
grosseur de la pièce et de tas de choses qui rentrent en ligne de compte.
Bon, on est prêt maintenant pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un gigot de 7 heures. Chapitre 3 de notre émission en compagnie d'Olympe Versini, le gigot de 7 heures. Alors Olympe, je vous propose de la compréhension suivante. Je prends la viande, c'est une chair. Cette chair, on l'a dit lundi et mardi cette semaine, puisque toute cette semaine est consacrée aux viandes, donc on en a déjà parlé un peu. Cette chair, c'est donc des sacs allongés, qui s'appellent les fibres musculaires, c'est les cellules qui se contractent hein, quand le cerveau leur en donne l'ordre. Dedans, il y a comme du blanc d'œuf, c'est-à-dire des protéines et de l'eau, donc c'est mou, hein. Et puis autour, il y a le collagène qui est un tissu plutôt non tissé, comme le papier, vous voyez, et qui est dur parce que les molécules sont de grands fils très enchevêtrés et ça gaine les fibres musculaires. Alors, plus il y a de collagène, plus la viande est dure, moins il y a de collagène, moins la viande est dure. Et quand on cuit très longuement dans l'eau au-dessus de 80 degrés, le collagène se défait, ça fait de la gélatine. Alors, je comprends bien le gigot de 7 heures, c'est-à-dire que j'ai une viande qui a le collagène qu'elle a, hein, je l'ai acheté chez le boucher, elle a du collagène, elle en a plus ou moins selon l'âge de la bête, selon la façon dont elle a couru, pas couru, selon la race de l'animal, des tas de choses. Donc, enfin, il y a du collagène, c'est un peu ferme quand même, et on voudrait l'attendrir, ben, si on cuit longuement avec du liquide. Et en particulier dans la recette de Georges Sand, elle y met des verres d'eau.
Oui, il y a suffisamment de liquide.
Du madère, du bouillon.
Le bouillon, voilà. Etc.
Oui. Ben, si on cuit comme ça longtemps, et ben, le collagène se défait progressivement. Et donc, si on chauffe pas trop fort, l'intérieur des fibres va pas durcir trop. Vous voyez, le blanc d'œuf, quand on le cuit très très fort, il durcit, il devient caoutchouteux. Mais oui. Quand on le cuit pas trop, il devient pas caoutchouteux. Et le collagène se défait. Alors, c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui même, à la maison, j'ai pris un gigot. Je l'ai mis dans une braisière, on fait une cocotte, hein, j'ai mis exactement les mêmes ingrédients qu'elle a dit. J'ai couvert, j'ai mis dans mon four électrique, j'ai branché 80 degrés, parce que 80 degrés, je vous ai dit que le collagène se défait. Je vais rentrer ce soir, je vais prendre mon gigot, je vais le servir sur la table, et il sera fondant.
Et il sera parfait.
Et il sera fondant.
D'accord.
Mais alors, est-ce que...
Une question esthétique, alors tout d'un coup, le collagène, vous savez, ça me fait penser à la peau.
Ah, c'est exactement le même.
Est-ce que c'est vrai l'histoire des... Alors, ça ne peut pas marcher les escalopes sur le visage pour avoir une police.
Ah non.
Puisqu'on n'a pas chauffé.
Non, mais vous souvenez... C'est pas le collagène qui va migrer
voilà,
dans
mais
la peau.
On a fait ça pendant longtemps.
Ah bah moi, je l'ai pas fait, hein, je peux vous assurer.
Moi non plus, mais je vous posais la question, ça peut pas fonctionner.
Non, en revanche, on fait des injections de collagène hein, pour retendre certains tissus. Ça, c'est bien ce qui donne de la
fermeté. Fermeté, en fait.
De la fermeté. Oui, parce que ce collagène, quand on le chauffe longuement, il gélatinise. C'est-à-dire que le bouillon se charge de collagène. D'ailleurs, le bouillon, si on le laisse refroidir, il va gélifier.
Exactement.
Il va gélifier. Ouais. Donc ce collagène a fait la gélatine et la gélatine va reformer un gel qui va faire les gelées de gélatine, c'est des aspics, c'est tout ça. Hein.
Oui, mais alors il y a quand même des viandes qui ont plus de gelée lorsqu'elles refroidissent que d'autres. Pourquoi ?
Bah parce qu'il y a des viandes. Vous voyez, par exemple, vous prenez. Parlons du bœuf. Le bœuf, il y a des viandes à braiser, des viandes à griller. Les viandes à griller, en général, c'est des viandes qui sont naturellement tendres. Ça veut dire qu'elles contiennent très peu de collagène. Par exemple, un aloyau, un filet,
oui,
quand ils sont
filet,
parfaits, on pince la viande, si ça s'enfonce comme dans du beurre, ça prouve que la viande est tendre, initialement. Mais si vous preniez du collier, par exemple, le collier, lui, est quelque chose de beaucoup plus robuste. Alors, il a beaucoup de goût, mais il est très dur. Alors, comment faire? Il est pas cher, hein, parce que tout le monde veut des viandes à griller et pas les viandes à braiser. En fait, il suffit de savoir qu'au-dessus de 55 degrés, le collagène se défait. 80, c'est encore mieux. Donc, on cuit à 80 degrés pendant des heures. Et une viande très dure, genre collier, les fibres à l'intérieur ne sèchent pas, donc votre blanc d'œuf ne devient pas caoutchouteux, en quelque sorte. Et puis, l'extérieur devient fondant et ça se mange effectivement à la cuillère. Donc, voilà comment faire quand on a des viandes un peu trop dures. Comment vous choisissez votre viande, vous?
Je choisis pas la viande sur la bête.
Ah oui.
Non, mais je choisis pas la viande sur la bête. Je fais confiance à mon boucher. Vous savez, c'est une question tactile, instinctive et visuelle. Le choix, j'ai pas appris. Mais on se rend compte qu'une viande quand même qui est très persillée, avec une jolie couleur, un rouge assez vif, un gras, parce que le gras selon la nourriture de la viande, si le gras est plus jaune et tout selon ce qu'elle a mangé, on sent finalement que je peux choisir une bonne viande. Voilà, et puis après le boucher qui connaît bien son métier, lui qui choisit souvent des bêtes sur pied, au premier coup d'œil, il doit savoir si sa viande est bonne.
Voilà, donc vous faites confiance.
Je fais confiance, bien sûr.
Et vous cuisez correctement, ça a l'air d'être...
je le cuis correctement, mais parfois je suis obligée, si je fais une entrecôte grillée, d'écouter le choix du client. Parfois les clients veulent la viande très cuite.
Ah, c'est vrai.
Ça arrive. Ah, oui. Alors il y a des petites tricheries.
Des goûts et des couleurs, c'est notre chapitre 4. Voilà. Dans un instant, avec Olympe Versini, Casa Olympe à Paris.
Oh, un gros.
Oh, pardon.
Un rose beef, cher. Un rose beef anglais, n'est-il pas? Cela vous sied-il?
Wonderful. Oh, oui.
Chapitre 4 de notre émission consacrée au gigot, le gigot de 7 heures, ou comment attendrir les viandes, avec Olympe Versini. Olympe, alors là, maintenant, on a du gigot, hein, on met dedans des choses, on le cuit, qu'est-ce que vous allez mettre, comment vous allez cuire, bon, pourquoi?
Alors moi, je suis absolument contre désosser les pièces de
viande. Ah bon? Ah oui. Pourquoi?
Ben, parce que le goût est apporté aussi par l'os sur la viande.
Oui, mais alors si on désosse et qu'on met l'os à côté?
Ben, le goût ne sera pas le même. Le goût sera pas le même. La texture de la viande sera touchée, abîmée. Non, moi je suis
pour
la
pas.
Pièce. Non. Et puis même pour un gigot entier, non, et non pas un gigot raccourci.
C'est-à-dire?
Ben, un gigot qu'on a coupé en ne gardant que le que la petite formation arrondie du gigot.
Et pourquoi vous préférez ça?
Parce qu'il y a plus d'os, et puis les morceaux qui se rapprochent de la culotte, ce qu'on appelle le haut du gigot, ont plus de goût. Et donc communiquent ce goût à la viande.
Ah oui, c'est donc pour une question de goût.
C'est
alors,
toujours une question de goût qui.
Ah oui, c'est vrai qu'on oublie
que
les cuisiniers pensent en termes de goût.
Voilà, c'est aussi bien le goût, et puis après la texture, puisque selon la découpe aussi du gigot, le goût en est différent.
Alors vous coupez comment, à l'anglaise ou à la française? Ah ben... pour les auditeurs, faut expliquer peut-être.
Il faut expliquer, voilà. Donc le gigot coupé à l'anglaise, c'est une coupe à l'horizontale.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez des tranches qui sont plus cuites sur les débuts de la coupe et qui deviennent rosées et saignantes en s'approchant de l'os.
D'accord.
Le gigot à la française, c'est le contraire. Il est coupé à la verticale, ce qui fait que vous avez aussi bien sur votre tranche du gigot du bien cuit que du saignant. Voilà, ça dépend de votre goût.
Oui, et vous,
et moi, j'aime bien avoir les deux.
Ah, donc
une variété. J'aime bien avoir et du cuit et du saignant.
Est-ce que votre idée esthétique derrière cette description, c'est plutôt une plaine toute plate, c'est un peu ennuyeux, et vous préférez quelque chose de vallonné?
Oui,
c'est
oui,
ça l'idée.
Oui,
c'est ça l'idée.
Sûr, oui.
Ah oui. Oui. Et du point de vue du goût, c'est comme ça que vous le pensez?
Et je pense aussi du point de vue du goût, oui, parce que selon la taille des morceaux, selon le mélange, on a dans cette coupe-là en plus, on a le croustillant de la peau.
Oui.
Qui va venir. Donc, lorsqu'on va couper sa tranche de gigot, on va avoir ce croustillant mêlé qui a un goût un petit peu. C'est difficile de définir les goûts. Qui a un goût un petit peu plus chantant, parfumé, parce qu'il a touché la matière grasse extérieure. Il a touché les ingrédients extérieurs qui étaient au coup.
L'eau de vie.
Les ingrédients extérieurs vont pas parfumer le centre du gigot.
Ah non, ça certainement pas.
Ça, c'est impossible.
Contrairement à ce qui a été écrit d'ailleurs dans les livres de cuisine.
On dit tellement de bêtises.
Ah oui, on dit beaucoup de bêtises.
On dit beaucoup de bêtises. Ouais. Comme saler, des choses comme ça. On sale avant un tout. Poivre. Quand je vois parfois des cuisiniers qui ont mélangé le poivre et le sel et qui, lorsqu'ils vont faire cuire une viande, jettent cette mixture sur leur viande avant de la cuire. C'est ridicule.
Ah oui, dans mon séminaire de gastronomie moléculaire qui a lieu tous les troisièmes jeudis du mois, on a testé ça. Il y avait des cuisiniers dans un séminaire, c'était il y a un an, ils sont venus en disant, alors on disait, qui sale avant, pendant, après, donc il y avait trois écoles en gros. Et alors, il y avait ceux qui disaient qu'ils allaient à fond, ils disaient c'est pour que le sel rentre dans la viande. On a mis un an, on a regardé au microscope électronique à balayage avec analyse des éléments chimiques, il n'y a aucun sel qui rentre. Mmh. Oui, absolument pas. Oui. Oui, c'est bizarre qu'on en vienne à dire ça.
C'est pour ça qu'un gigot, si vous avez des personnes qui mangent non salé, c'est formidable quand vous leur servez le cœur du gigot.
Ah oui.
Parce que vous avez assez donné votre gigot. En revanche, les dernières tranches ne sont absolument pas salées. Oui.
Gousse d'ail ou pas gousse d'ail?
Ah, moi j'aime bien l'ail, mais c'est pas une obligation. L'ail n'est pas une obligation dans la cuisine. Moi qui suis du Sud, je travaille l'ail avec beaucoup de parcimonie.
Ah bon, ça c'est... Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi?
Ben parce que c'est quelque chose de très puissant.
Oui.
Et qui souvent, ou ça enrichit ou ça dénature. En revanche, si vous jouez, par exemple, il y a une recette qui s'appelle le gigot aux 60 gouttes d'ail,
oui, oui.
Qui est un petit peu, qui est cuisiné entier, mais qui est un petit peu cuisiné comme ça, légèrement mouillé, avec un petit bouillon, plantes aromatiques, etc. Et 60 gousses d'ail. Et ça, c'est merveilleux, parce que l'ail s'est confit, il garde toute sa saveur, sa fine saveur, et non pas sa saveur agressive. Et ça, j'aime beaucoup, ça.
D'accord. Vous feriez pas de gigot style tagine, alors, si je comprends bien?
Ah, bien sûr. Alors, ça, c'est merveilleux.
Ah bon, mais vous me disiez que vous vouliez pas qu'elle soit trop fondant, il fallait des contrastes.
Ah, le gigot se peut se faire.
Donnez-nous une recette qui serait bien vous. Une recette qui serait tout Olympe Versini avec du gigot.
Par exemple, on va dire de cette manière, je ferais un gigot aux artichauts.
Ah, ça c'est
donc
original,
je couperai
lesquels artichauts, des petits violets,
des petites poivrades qu'on a actuellement là, les petits violets, oui. Je couperai d'une manière grossière le gigot en laissant l'os. Hein, ça, votre boucher le fera en laissant toujours l'os.
D'accord,
sur les morceaux.
Oui.
Je ferai revenir dans un plat de terre avec un petit peu d'huile d'olive les morceaux de gigot de manière à les dorer légèrement.
Ouais. Donc là, ça donne du goût. Quoi.
Là, ça donne du goût.
Et du croustillant. Voilà. Et quelque chose,
je mettrai. Bon nombre d'épices.
Tiens.
Avec la main lourde sur les épices.
Lesquelles, les épices, par exemple?
Eh bien, donc, si on se rapproche du bassin méditerranéen, j'aimerais bien mettre du cumin, un petit peu de cannelle, un petit peu de curcuma, quelques pincées de piment fort, et je mouillerai très, très, très légèrement, mais une petite goutte, je couvrirai, et il faut laisser ça cuire à feu très doux, lentement. Et en fin de cuisson, il faut compter environ 25-30, ça dépend de la taille des morceaux, 30-35 à 45 minutes de cuisson. Environ 15 minutes avant de la fin de la cuisson, j'ajouterai les petits cœurs d'artichaut poivrade qui seront épluchés à l'intérieur, couverts, c'est tout.
Et pourquoi vous faites tout ça?
Pour manger, pour me régaler.
Non, bien sûr. Mais selon quelle idée esthétique cet artichaut avec les épices c'est parce que ça vous rappelle quelque chose? C'est parce que vous avez une idée?
Ça, c'est parce que vous savez... l'artichaut, c'est un légume que j'aime beaucoup. C'est un de mes légumes préférés.
On devrait réhabiliter l'artichaut. Il y a un siècle, il était considéré à l'égal de la truffe. Hein.
Voilà, moi, j'adore l'artichaut. C'est pour moi une chose merveilleuse. Avec
pour sa texture, pour son goût, pourquoi?
Pour son goût, sa texture, sa couleur, sa forme et toutes les différentes possibilités de cuisson et de cuisine que l'on peut faire.
Est-ce à dire que dans cette recette que vous avez donnée, c'est le gigot qui vient à l'appui de l'artichaut et les épices viennent compléter le paysage que vous avez dessiné?
Oui, mais là, quand même, le maître, c'est l'agneau, hein.
Ah, quand même.
Le maître est l'agneau, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'agneau figure imposée, vous mettez de l'artichaut parce que vous adorez l'artichaut.
Non, je mets beaucoup d'artichaut. Mais là, on parle de l'agneau.
Oui,
donc,
oui.
L'agneau va être quand même, dominant en quantité.
D'accord, ouais.
En quantité.
Et pourquoi les épices?
Parce que moi je trouve que les épices c'est une chose qui est formidable et je pense en plus que quand on dit faut doser, tout dépend les recettes, il faut doser très modérément les épices dans ce genre de cuisine, cette cuisine méditerranéenne.
Ouais.
Les épices peuvent être utilisées en quantité, il faut pas avoir peur, aussi bien pour une volaille que pour un agneau, tout ça, ça va très très bien et on sent toujours le goût du produit initial, principal.
D'accord. Donc j'ai appris aujourd'hui. Je vois une idée esthétique se dessiner, sentir le goût du produit initial, se faire plaisir, et puis il y a la variation imposée autour du gigot. Merci Olympe. On se retrouve mercredi prochain avec. Alors là, c'est la punition des carottes.
Je ne vais pas y penser. Je suis malade d'avance.
À bientôt.
Traité culinaire et savant par Hervé Tisse. Réalisation Bruno Sourcy.